Le commandant en chef de la marine du CGRI en visite sur les îles stratégiques de Tombé-Bozorg et Boumoussi a déclaré « Nos forces sont tout à fait prêtes à protéger les intérêts du pays dans le golfe Persique et les mers lointaines ». L'amiral Ali Reza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI ainsi qu'un groupe de commandants et d'adjoints du CGRI ont effectué une visite d'inspection des unités opérationnelles liées au centre flottant des unités sous-marines, informatiques, d'ingénierie, de commandement et de contrôle et d'autres départements concernés. Après avoir passé en revue le dernier état de préparation et de capacité de combat, l'amiral Tangsiri a déclaré « La marine de l'IRGC surveille avec vigilance tous les mouvements et agissements ennemis et est pleinement préparée à protéger les intérêts du pays dans le golfe Persique et les mers lointaines. » L'Iran vient d'envoyer le porte-avions Macron accompagné du destroyer Sahand aux Caraïbes, dans le cadre des coopérations avec le Venezuela. Les USA ont menacé les bâtiments iraniens. Le porte-parole du Pentagone a même dit avoir à l'œil le plus grand navire logistique du Moyen-Orient Macron, qui apporte cette vedette rapide munie de lance-roquettes à son bord, lesquels devraient visiblement être livrés au Venezuela. Les Chinois seraient déçus de la retenue de Pékin face à l'arrivée d'un avion militaire américain à Taïwan. La retenue dont a fait preuve Pékin à la visite de sénateurs américains à Taïwan à bord d'un C-17 de l'US Air Force déçoit les internautes chinois qui exhortent Pékin à y opposer une réponse plus ferme, relate Bloomberg. L'escale de 3 heures faite par un avion de transport militaire américain C-17 à Taipei, capitale taïwanaise, a provoqué un déferlement de commentaires nationalistes en ligne en Chine, rapporte Bloomberg. L'avion transportait une délégation de sénateurs américains en vue d'une réunion avec la présidence taïwanaise Tsai Ing-wen. Bien que les médias locaux soulignent qu'il s'agit de la première visite d'un C-17 de l'US Air Force à Taïwan depuis 1995, la réaction immédiate de Pékin a été relativement mesurée, constate l'agence. Cette retenue a de toute évidence vexé de nombreux internautes qui exhortent le président Xi Jinping à appliquer sa rhétorique de la ligne rouge. Le commentaire le plus aimé qui accompagne les images du C-17 sur le réseau Weibo dit « Nos lignes rouges ne le sont plus. Si c'est le cas, pourquoi les étrangers doivent-ils considérer Taïwan comme faisant partie de la Chine ?» Un tel sentiment montre les difficultés d'équilibre auxquelles fait face le gouvernement de Xi après les années d'escalade de rhétorique et d'activités militaires destinées à parvenir à un rapprochement entre Taipei et Washington, estime Bloomberg. La Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, menace de recourir à la force en cas de proclamation d'indépendance ou d'intervention extérieure. Washington, qui n'a depuis 1979 plus de liens diplomatiques officiels avec Taipei, reste son premier soutien international et son principal fournisseur d'armes, explique Sputnik. En avril, Taïwan a menacé d'abattre tout drone chinois qui tenterait de pénétrer dans son espace aérien, informe le média russe. Le Salvador veut devenir le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Selon l'agence ICAFIN, les crypto-monnaies font actuellement l'objet d'une vague de répression dans plusieurs pays. Toutefois, elles bénéficient encore du soutien de certaines nations. Le Salvador, par exemple, s'apprête à adopter une loi qui va augmenter la popularité du Bitcoin. Le gouvernement du Salvador va introduire une législation qui fera du Bitcoin BTC une monnaie légale aux côtés du dollar américain. L'annonce a été faite par le président Nayib Bukele dans une vidéo préenregistrée diffusée ce week-end à la conférence Bitcoin 2021 à Miami. La semaine prochaine, j'enverrai au Congrès un projet de loi qui fera du Bitcoin une monnaie légale, a déclaré le président Bukele. Ajoutant que le pays veut aussi détenir des bitcoins dans ses réserves nationales. Il a aussi annoncé un partenariat avec la société de portefeuille numérique SWAC, dirigée par Jack Mallers. Afin de moderniser l'infrastructure financière du pays en utilisant la technologie Bitcoin. Pour M. Mallers, cette décision contribuera à libérer le plein potentiel du BTC pour les utilisations quotidiennes sur un réseau ouvert qui profite aux particuliers, aux entreprises et aux services du secteur public. Et ce qui est transformateur ici, c'est que le Bitcoin est à la fois le plus grand actif de réserve jamais créé et un réseau monétaire supérieur. La détention de Bitcoin permet de protéger les économies en développant des chocs potentiels de l'inflation en monnaie fiduciaire, a-t-il indiqué. Au Salvador, où environ 70% de la population n'a ni compte bancaire ni carte de crédit, cette proposition de loi, si elle est adoptée par le Parlement, pourrait permettre à une grande partie de la population d'avoir accès aux services financiers. Il faut noter que l'économie du pays repose principalement sur le transfert de fonds, c'est-à-dire l'argent envoyé de l'étranger, qui représente environ 20% du produit intérieur brut PIB du pays. Et ces transferts coûtent cher et prennent plusieurs jours pour arriver dans les mains des destinataires. Le SARS-CoV-2 est une bioarme, le reste est une vaste escroquerie. Les médias dits mainstream ou dominants remettent en avant la thèse de l'origine humaine du SARS-CoV-2. Érigé désormais en censeur universel et arbitre de la pensée politiquement correcte, les géants du numérique approuvent une thèse selon laquelle ce vecteur biologique serait une bioarme. Une thèse considérée comme complotiste et rejetée durant des mois. Le SARS-CoV-2 est une bioarme à faible létalité mais à haut potentiel. Ce vecteur n'est qu'un parmi une panoplie comptant plus de 230 autres virus, macrovirus, microbes, germes, champignons et parasites. L'Empire accuse notamment la Chine d'être à l'origine de cette bioarme parce qu'elle est apparue à Wuhan au quatrième trimestre 2019. Plus précisément, la Chine est accusée de négligence ayant abouti à un incident malencontreux, une sorte de fuite accidentelle. Ce que Beijing rejette d'un revers de la main en accusant Washington d'avoir préparé ce vecteur bien avant son apparition à Wuhan, dans un de ses très nombreux laboratoires de guerre biologique disséminés sur l'ensemble de la planète. De manière plus précise, les Chinois pointent du doigt Fort Detrick à Frederick, dans le Maryland. Cette installation fut le cœur du programme biologique militaire américain de 1943 à 1969. C'est dans cette installation que fut modifié le virus d'Ebola avant son expérimentation en Afrique occidentale. C'est un changement de discours assez important. La thèse du pangolin est enterrée. C'était une trouvaille d'une agence de communication ayant confectionné le logo de Daesh et d'autres organisations terroristes pour les besoins de l'ancienne stratégie de la tension permanente et de la guerre sans fin pour le profit. Ce paradigme étant caduc, un recyclage s'imposait. Le retour du paradigme de la guerre froide de 2000 voulait que l'on passe d'Al-Qaïda au pangolin. Ce qui fut fait au milieu d'une crédulité semblable à celle des foules de Moyen-Âge terrifiées par la menace d'excommunication. Ce qui est certain est que nous avons donc eu affaire à une bioarme. Le reste importe puisqu'il y a eu une immense manipulation mensongère autour de cet incident. Le port d'une muselière humaine fut une idée burlesque née d'une blague sur les Asiatiques. Elle fut imposée comme un expédient pour un surplus d'imposition par de nombreux pays. Le monde est une boutique de farces et attrapes. L'OTAN explique pourquoi elle prête une attention particulière à l'Arctique. L'OTAN est contrainte d'investir dans de nouvelles capacités en Arctique face à la Russie et la Chine, mais également à cause de la fonte des glaces, explique Jens Stoltenberg. La fonte des glaces en Arctique ainsi que les activités militaires russes dans la région et l'intérêt de Pékin pour cette zone obligent l'OTAN à y prêter une attention particulière, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. L'OTAN a toujours été présentée en Arctique et la fonte des glaces ainsi que le renforcement de la présence russe, au même titre que l'intensification de l'intérêt et de la présence de la Chine, augmente l'importance de l'Arctique pour l'OTAN, a fait savoir M. Stoltenberg lors d'une réunion de l'Atlantic Council, Conseil Atlantique à Washington. Selon lui, les pays de l'OTAN investissent dans de nouvelles capacités, des avions, des sous-marins, afin d'assurer le maintien du niveau nécessaire de présence militaire de l'Alliance en Arctique. Depuis 2012, la Russie rétablit progressivement son infrastructure militaire en Arctique, abandonnée après la dissolution de l'Union soviétique. En mai, elle a invité des journalistes étrangers à sa base du trèfle arctique sur l'archipel François-Joseph, construite dans le cadre de ses efforts. Précédemment, le ministère de la Défense avait annoncé avoir aménagé en Arctique sa première longue piste d'atterrissage capable d'accueillir tous les types d'aéronefs, y compris les avions stratégiques. En mars, trois sous-marins nucléaires russes sont simultanément remontés à la surface en brisant la glace arctique dans un rayon de 300 mètres à une heure indiquée. En août 2020, le coordinateur du département d'État américain pour l'Arctique, Jim DeHart, avait déclaré que les États-Unis considéraient l'Arctique en tant que flanc nord de l'OTAN. Plus tôt en 2021, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, avait souligné que l'armée américaine surveillait de très près l'activité russe dans l'Arctique. Moscou assure pour sa part que les activités en question revêtent un caractère défensif et ne présentent aucun danger pour d'autres pays.